Sans pub, sans peur ni censure, MR1, la radio qui libère la parole, la chanson et la pensée. Retrouve les programmes en ligne, www.mr1.ch.
Nous sommes vendredi 21 avril, nous sommes à la librairie de l'Olivier, ça se situe rue de Fribourg 5 à Genève, à proximité de la gare Cornavin. Et nous sommes en compagnie de Mohamed Taleb, philosophe et historien. Vous enseignez l'éco-psychologie à Lausanne, vous présidez l'association Le Singulier Universel, qui se consacre au dialogue des cultures et des spiritualités. Vous êtes également l'auteur d'ouvrages qui relient l'écologie, nous en parlerons, et la spiritualité, dans une synthèse critique du monde contemporain et du sens qui nous fait de plus en plus défaut. Vous agréerez ou démentirez l'assertion sous peu, parmi lesquels ouvrages, donc Nature vivante et âme pacifiée, L'écologie vue du Sud, ou encore Pour un anticapitalisme éthique, culturel, spirituel, c'est bien entendu non exhaustif, puisque voilà, il y en a moult. Et alors, ce soir, nous sommes là à l'occasion de cette conférence qui aura lieu ici, à la librairie de l'Olivier, où nous sommes, sous l'égide de, j'espère que je ne me trompe pas, mais vous me corrigerez, l'Université de l'âme du monde et l'ICAM, l'Olivier. Donc l'ICAM, c'est l'Institut
des cultures arabes et méditerranéennes.
Voilà. Pour nos éditrices et nos auditeurs. Dans le cadre d'un nouveau cycle de cours que vous dirigez, que vous offrez ici à Genève, que vous animez, Mohamed Taleb, qui sont les soirées genevoises de l'éco-psychologie et de l'imaginaire. Alors, merci de nous consacrer un peu de votre temps. Merci. Et pour immédiatement situer la notion, eh bien, qu'est-ce donc que l'éco-psychologie ?
Alors, l'éco-psychologie, c'est un paradoxe, parce que c'est un courant de pensée extrêmement neuf, puisqu'il remonte au début des années 1990. Il est formellement apparu aux États-Unis, en Californie, en 1992, sous la plume d'un philosophe, d'un historien, d'un écologiste états-unien qui s'appelle Theodore Ozak et qui a lancé le mouvement à partir d'une intuition qu'il travaille donc depuis très longtemps et qui est celle-ci. Il y a un continuum entre la vie intérieure, entre la qualité de la vie intérieure, qu'elle soit artistique, poétique, spirituelle, psychologique, et puis la qualité de notre habitat, la qualité de notre environnement. Et que prétendre à une vie spirituelle ou à une vie artistique à l'ombre d'une planète malmenée, ça n'a pas de sens. Et inversement, prétendre à la guérison du drame environnemental, ça n'a pas de sens si la personne elle-même est malmenée dans son intimité, dans sa subjectivité. Et donc l'éco-psychologie est apparue comme une double réponse à la fois à la crise écologique et puis à la crise anthropologique, qu'elle soit donc sociale ou bien individuelle. J'ai dit que c'était un paradoxe parce que c'est un courant de pensée neuf et en même temps, il s'appuie, ce courant de pensée, l'éco-psychologie, il s'appuie de façon explicite sur un socle éthique, philosophique et spirituel qui remonte au moins, au minimum, qui remonte à la Renaissance. Donc voilà, il faut faire un déplacement dans le temps de 5 à 600 ans. Et en particulier, il se réclame donc d'un certain nombre de sagesses qui ont été mises à l'honneur à la Renaissance, donc au 15e et au 16e siècle. Il s'agit en particulier de la tradition humaniste, pas de n'importe quel humanisme. Il s'agit de ce que moi j'appelle l'humanisme cosmique, donc l'humanisme de l'Académie de Florence, avec des figures comme Pic de la Mirandole, ou Marcille Ficin, ou Léonard de Vinci, ou Paracels également, pour la Suisse. Donc c'est un humanisme cosmique au sens où la représentation de l'humain qui est proposée est celle-ci. L'humain est véritablement humain s'il prend conscience qu'à l'intérieur de lui, il y a tout l'univers. Pour reprendre les formules donc, de l'époque, il est humain s'il est homo universalis. Donc un humain universel s'il est microcosmos, un petit univers. Donc l'éco-psychologie s'appuie sur cette tradition de l'humanisme cosmique, et puis elle s'appuie également sur une autre tradition que la Renaissance a également célébrée, et qui est la philosophie de l'âme du monde, donc de l'anima mundi, et qui nous dit la chose suivante, c'est que le monde, le cosmos, les arbres, les forêts, les lacs, les constellations, l'existant en quelque sorte, possède une profondeur symbolique, culturel, spirituel. Dit autrement, et comme diraient les alchimistes de la Renaissance, justement, le réel ne se réduit pas au matériel. Le réel porte aussi des dimensions métaphysiques, symboliques, spirituelles. Et il se trouve que cette profondeur symbolique du monde a été nommée depuis Platon âme du monde, anima mundi, et que cette philosophie de l'âme du monde, elle est présente dans la plupart des cultures spirituelles de l'humanité. Elle est présente dans la tradition grecque avec Platon, dans la tradition médiévale chrétienne, dans la tradition arabo-musulmane, jusqu'en Inde, jusqu'en Chine. En fait, dans quasiment toutes les cultures philosophiques de l'humanité, il y a eu l'idée, l'intuition, la perception que le monde avait une profondeur, que le monde avait une âme. Donc l'éco-psychologie est la reformulation, est la reprise de l'humanisme cosmique d'un côté, et puis des philosophies de l'âme du monde de l'autre.
Pour avoir suivi en fait vos cours, ce côté d'âme du monde, j'aime beaucoup. Elle est très représentative en fait par rapport à notre monde, où il y a beaucoup de dérives.
Et en même temps, la figure de l'âme du monde et de l'homo universalis sont intimement liées. Les deux sont intimement liées. C'est vraiment la perception que et l'humain possède une profondeur qui est son âme, et le monde possède une profondeur qui est son âme. L'éco-psychologie s'est affirmée qu'il y a un continuum entre l'âme de chacun et l'âme du monde, entre les profondeurs anthropologiques et puis les profondeurs cosmologiques.
Une vibration, en fait, qui est universelle.
Une vibration, une résonance, en tout cas un continuum. Un continuum, sans qu'il y ait de muraille de Chine qui s'érige entre ces deux domaines.
Et à ce titre-là, est-ce qu'on peut également faire l'analogie avec une sorte de convergence entre le profane et le sacré ?
Non, il n'y a pas de convergence, parce que l'idée de la convergence suppose un préalable qui est la distinction dualiste entre les deux. On va les faire converger à un moment donné, mais avant qu'il y ait convergence, il faut d'abord dualité. Là, avec l'éco-psychologie, c'est plutôt l'idée que tout est sacré.
D'accord.
Enfin, rien n'est profane. Et c'est pour ça que les éco-psychologues envisagent la crise écologique comme une profanation de la nature vivante. Profanation, c'est-à-dire le passage du sacré au profane.
Est-ce que ce mouvement-là suit également, enfin, puise ses racines également dans Henri David Thoreau, par exemple. Quand je vous entends, ça me fait penser à la désobéissance civile, ça me fait penser à cette réfection du monde, à cette reconduite dans le monde, à cette réacquisition du monde d'une certaine manière.
Alors, c'est moins la désobéissance civile de Thoreau, parce que c'est un pamphlet assez circonstanciel qui correspond à la lutte contre l'esclavage. C'est dans ce cadre-là que Thoreau a rédigé sa brochure. C'est plutôt le Thoreau de Walden, c'est plutôt le Thoreau ermite qui va précisément faire l'éloge de la part sauvage dans la nature et de la part sauvage en l'humain. C'est plutôt ce Thoreau-là qui est présent en éco-psychologie. Le Thoreau de la désobéissance civile, il est également présent. C'est moins la philosophie de l'éco-psychologie que plutôt l'agir politique de l'éco-psychologie qui va solliciter cette notion de désobéissance civile. En tout cas, nous sommes aux États-Unis et il est normal que les premières sources, en quelque sorte, de l'éco-psychologie soient des sources états-uniennes, même si, dans le cas de Théodore Rozac, dans son œuvre qui s'appelle « Vers une contre-culture », qui date de 1968 et qui déjà annonce l'éco-psychologie, même si le mot n'est pas utilisé, on a d'abord des références à William Blake, à Goethe et à la tradition alchimiste, donc des figures culturelles plutôt continentales, européennes et moins états-uniennes.
Et également l'Orient, je pense par exemple au Siddhartha de Hermann Hesse, par exemple, ça c'est quelque chose aussi qui est constitutif de l'éco-psychologie.
Sa cousine, sa voisine, c'est pas totalement la même chose. C'est pas totalement la même chose parce que dans le cas précis de l'éco-psychologie, il y a l'idée que toutes les cultures de l'humanité sont capables de porter, sont capables d'enfanter un regard éco-symbolique et éco-psychologique sur le monde. Alors que l'ouvrage d'Hermann Hesse, Siddhartha et d'autres fait partie d'un courant culturel bien particulier de l'Europe qui est qu'un certain nombre d'écrivains et de poètes européens, on peut intégrer Romain Rolland également la chose, un certain nombre d'écrivains européens se sont sentis à l'étroit dans la culture occidentale, d'où le fait qu'ils vont vivre, physiquement ou en tout cas intérieurement, vivre leur chemin de Katmandou, qui sont faits par les jeunesses occidentales dans les années 1960, eux l'anticipent sur le plan de la littérature. Dans le cas de l'écopsychologie, il y a quand même l'idée, dans un contexte européen, qu'il y a en Europe des sources culturelles qui ont la même dignité, en quelque sorte, que ces sagesses d'Orient. Donc il n'y aura pas l'orientalisme qu'on a chez Hermanès ou chez Romain Rolland dans l'écopsychologie. Il y a des courants orientalistes en écopsychologie, notamment aux États-Unis. Vous avez Joanna Macy qui se réclame du bouddhisme et de l'écopsychologie. Mais l'essentiel du travail de Théodore Ozac, c'est de s'appuyer, en tant que culturellement européen, sur le meilleur de la culture européenne, d'où les références à Goethe, à William Blake, au romantisme, donc à une tradition, on va dire, plus locale. Mmh. Voilà. Même s'il avait la plus grande des amitiés pour les sagesses d'Orient et pour la sagesse des peuples chamaniques, pour les spiritualités musulmanes, parce qu'on a un universalisme pluriel chez la plupart de ces auteurs.
C'est-à-dire que vous démentez l'assertion selon quoi on n'est pas prophète en son pays. On peut.
dans le cas précis des États-Unis, il n'a pas été prophète en son pays. Donc voilà, l'adage est confirmé, parce que tout le mouvement de la contre-culture qu'il a accompagné et qui remonte aux années 1960 a été, donc qui était la matrice de l'écopsychologie, ce mouvement de la contre-culture a été cassé en mille morceaux aux États-Unis au milieu des années 70, quand l'Amérique profonde, l'Amérique traditionnelle, a réagi en réaffirmant les fondamentaux du mode de vie américain contre la contre-culture. Ah, on peut parler d'une sorte de contre-révolution, et qui a tout simplement emmené à la présidence la droite du Parti républicain, Reagan, jusqu'à Trump. On a 50 ans de dérive droitière et conservatrice aux États-Unis, ce qui fait que tout l'élan de la contre-culture des années 60 et de l'éco-psychologie des années 90 n'a pas, dans le contexte états-unien, n'a pas vraiment brillé. Au contraire... l'Amérique profonde a réagi en se disant « Non, on veut réaffirmer la suprématie des blancs anglo-saxons protestants, hein, les fameux WASP, et certainement pas donner l'Amérique à nos enfants avec des cheveux longs et avec des figures spirituelles un petit peu baroques. »
Bah, c'est mieux, effectivement. Alors, effectivement, revenons dans nos contrées, à l'aune des élections présidentielles, hein, chez nos voisins, et dans les 30 troubles que l'on traverse. Comment observez-vous, interprétez-vous le monde qui nous entoure ici, le monde proche, du point de vue de l'éco-psychologie? De nouveau, faut-il réenchanter? Comment réenchanter alors que, très concrètement, eh bien, on vit une campagne présidentielle, par exemple, à laquelle on assiste, qui est pour le moins, dans des dignités que l'on peut discutables pour le moins?
Alors, l'éco-psychologie se fiche royalement des prochaines élections, parce qu'elle s'inscrit non pas dans l'urgence et dans le temps court, mais dans le temps long. Et l'éco-psychologie considère que l'humanité est en état de péril, depuis 500 ans. Voilà, donc il faut prendre du recul, sinon on est noyé dans les affairements du monde immédiat. Donc la question des élections ne se pose pas. Ce qui se pose, c'est une civilisation qui est tout simplement le capitalisme, mis en place au XVIIe siècle. Et il se trouve que dans le contexte de cette civilisation de l'objet et de la marchandise, donc au XVIIe siècle, eh bien, on a une nouvelle représentation de l'humain et une nouvelle représentation de l'environnement. L'humain, c'est une machine à calculer, c'est le cogito cartésien, je pense donc je suis, et c'est un corps qui est réduit à une machine. C'est la théorie cartésienne du corps-machine. Et puis, du côté de l'environnement ou de l'écologie ou du cosmos, eh bien, c'est simple, le monde n'a plus d'âme. Le monde n'a plus d'âme, le monde n'a aucune profondeur, parce que le monde se réduit à une machine. Au XVIIe siècle, avec le capitalisme, on voit la mise en place de ce qu'on va appeler la pensée mécaniste. Tout est envisagé sur le mode du mécanisme, de la machine, et on sait très exactement comment les choses sont passées. On sait très exactement que dans les années 1620-1630, en Europe, on a vu toute une sorte de levée de bouclier, un certain nombre de philosophes, de scientifiques, qui se sont mobilisés contre précisément l'humanisme cosmique et contre les philosophies de l'âme du monde. Pour eux, l'homo universalis, l'anima mundi, donc l'humain universel et l'âme du monde, sont des figures superstitieuses, sont des figures qui ne renvoient à rien. L'humain, ce n'est qu'une machine douée d'un esprit calculateur, et l'univers, ce n'est qu'un ensemble de choses soumis aux fameuses lois de la physique et de la chimie. Et c'est le début de ce que plus tard, au début du XXe siècle, le sociologue allemand Max Weber nommera le désenchantement du monde. Le désenchantement du monde, c'est l'un des principaux paramètres du capitalisme qui se met en place au XVIIe siècle. Donc l'éco-psychologie estime que les problèmes contemporains, nous devons les intégrer dans la trame d'une crise anthropologique qui remonte à plusieurs siècles. Si on n'a pas cette lecture historique, cette lecture panoramique, eh bien on est soumis à la loi de l'urgence, à la loi de l'ici et maintenant, sans capacité de recul. Et lorsqu'on ne peut pas prendre de recul, dans le meilleur des cas, on résiste. Mais on ne crée pas. La créativité, c'est la prise de recul.
J'aimerais vous entendre aussi sur le désenchantement en fait, de notre jeunesse. Comment vous la voyez? Comment elle est arrivée?
En fait, c'est pas simplement la jeunesse, c'est l'ensemble des classes sociales qui sont désenchantées. À l'échelle du monde, les paysanneries du monde sont désenchantées, le prolétariat est désenchanté, le monde des artisans, les femmes, les peuples autochtones. Donc c'est l'humanité comme sujet qui est emportée dans le syndrome du désenchantement du monde. En réalité, et pour être plus juste, c'est pas le monde qui a été désenchanté. C'est la relation au monde qui a été désenchantée. Et là, c'est une différence majeure qu'il faut faire. Le monde, il est. Les arbres, les montagnes, les lacs, les constellations sont. Donc le monde n'a pas été désenchanté. C'est le rapport au monde qui a été désenchanté. Ça veut dire que militer pour le réenchantement du monde, ça n'a pas de sens. C'est la relation qui doit être réenchantée. Ça signifie quoi? Que réenchanter le rapport au monde, la relation, le Paracelse, il parlerait de la correspondance, eh bien, réenchanter la relation au monde, c'est réinsuffler dans la relation de la poésie, du jeu, du don, du sacré, de l'esthétique, faire en sorte que le rapport ne soit plus celui de la consommation, de la jouissance ou de la domination. Et donc, il y a une métamorphose des valeurs qui doivent être pensées et vécues, donc une métamorphose des valeurs, passer des valeurs de la consommation et de la rupture avec l'environnement naturel, à un autre type de valeur, à une autre éthique, à un autre système de valeur, dans lequel, au contraire, on affirme le caractère cosmique de l'identité humaine. L'humain est humain s'il est aussi un fils et une fille des constellations, ou bien de la vive, de la terre vivante. La jeunesse, comme d'autres segments sociaux et comme d'autres classes sociales, ou tranche d'âge, est victime de ce désenchantement capitaliste du rapport au monde. On voit les logiques de consommation qu'il a travaille, au nord, au sud, en Orient et en Occident. Le souci, il est que les rapports dans le sud sont des rapports économiquement profondément inégaux, donc les rapports entre le nord et le sud, entre le monde occidental et puis les trois A, hein, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latino-afro-indienne, et que dans cette injustice structurelle économique entre le Nord et le Sud, eh bien, il y a quelque chose qu'on voit dans les pays du Sud, c'est une frustration à l'égard du consumérisme, parce que on a... Là, je parle d'un phénomène psychique. Là, je ne parle pas du piège de la nature. Là, je parle des jeunes qui sont frustrés parce que ils sont aliénés par l'image des objets qu'ils n'auront jamais. Parce que la Terre, physiquement, ne peut pas donner à tous les individus sur Terre, tous les objets de la société de consommation. La Terre, physiquement, ne peut pas. Voilà. Donc, ce n'est pas donc, l'objet en lui-même qui aliène, l'image de l'objet est suffisante pour être aliénante, par le biais de la télévision, de la publicité, etc.
On n'aura jamais.
Voilà. Et donc, il y a la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que l'imaginaire des peuples du Sud et des jeunesses du Sud, comment l'imaginaire comment est-ce qu'on peut envisager la décolonisation de l'imaginaire, c'est-à-dire sa démarchandisation. Et ça, c'est l'un des enjeux majeurs des 20 prochaines années.
Et pourtant, Malraux annonçait un 20e siècle spirituel, mystique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de ça? Est-ce que malheureusement, effectivement, avec ce désenchantement, on a perdu notre capacité à penser le monde, on a perdu notre capacité à se représenter des notions?
Non, c'est que le capitalisme malmène les structures sociales, les structures politiques, les structures, les structures culturelles.
On l'a laissé finalement, nous nous sommes laissés coloniser par cet état d'esprit.
Non, les Indiens aux États-Unis ne se sont pas laissés dominer par les Blancs, ils ont été génocidés. Donc il y a eu les guerres indiennes, il y a eu les mouvements de résistance. C'est pas parce qu'un peuple est défait, donc c'est pas parce qu'un peuple a perdu une guerre ou une bataille, qu'il est responsable. Enfin, si les Indiens ont perdu les guerres indiennes aux États-Unis, c'est pas à cause de faiblesse interne, c'est parce que la puissance de feu de la colonisation blanche était largement supérieure aux arcs et aux flèches des peuples autochtones. Je veux dire, on avait d'un côté les arcs et les flèches, et puis de l'autre le chemin de fer avec des millions et des millions de colons qui, notamment lors de la conquête de l'Ouest, s'est affirmé. Il y a eu défaite des Indiens, et pourtant il y avait dignité, il y avait bravo, il y avait légitimité de la lutte indienne. Ils ont été défaits, ça ne signifie pas qu'ils étaient en tort. Ou en défaut?
Certainement pas. Mais y a-t-il justement matière à espoir là-dedans? Puisque si l'on considère les populations indiennes, nous avons assisté tout récemment à ce fameux pipeline que Trump a remis en route au Dakota du Nord et au Dakota du Sud, où on s'aperçoit que malheureusement, la résistance est parfois... Alors, on ne veut pas utiliser le mot vaine, mais elle est compliquée. Ça peut donner des victoires à la Pyrrhus, c'est ça que je veux dire.
Dans les philosophies de l'âme du monde... dans les philosophies de l'humanisme cosmique, et là c'est aussi un acquis transculturel, parce qu'il est présent aussi bien en Orient qu'en Occident, au Nord et au Sud, il y a l'idée que ce qui est donné aux humains, c'est de poser des actes justes, en fonction de nos valeurs, en fonction de notre vision du monde. Ce qui est donné aux humains, c'est de poser des actes justes. Maintenant, la défaite ou la victoire n'appartiennent pas aux humains, ils appartiennent à Dieu, au Dieu, à la déesse, à la grâce, à tout ce que l'on veut. Donc les humains n'ont pas à s'approprier les défaites, ils n'ont pas à s'approprier aussi les victoires. Ça évite à la fois la culpabilisation lorsqu'il y a des défaites, et puis ça évite une logique de l'orgueil lorsqu'il y a des victoires. En revanche, s'il n'y a pas d'acte juste, il y aura des défaites.
Voilà.
Donc, voilà. Donc que ces luttes indiennes aujourd'hui, avec les Sioux, Lakota, avec la résistance au pipeline, conduisent à une défaite, ne signifie pas... Voilà. S'il fallait avoir l'assurance de la victoire avant de s'engager dans une militance, on serait dans l'esprit de l'homo economicus. Voilà, celui qui veut calculer son intérêt. Ah, mon intérêt n'est pas de m'engager dans cette lutte perdue d'avance. Là, au contraire, on a une éthique chevaleresque. On s'engage corps et âme dans un jeu hasardeux qui peut mener à la mort. Bah, parfois, la mort est préférable à une vie sans honneur. En tout cas, c'est ce que nous disent un certain nombre de sagesse et d'Orient et d'Occident. C'est une éthique chevaleresque.
Ouais, complètement. Alors justement, vous êtes d'ailleurs très sensible à Ekta Parishad, que vous citez, je crois que je l'ai lu, soit je l'ai entendu, les mouvements des paysans sans terre, hein, les humains de la terre. Donc selon vous, l'espoir peut être recouvré à partir de ce sens-là, depuis eh bien, ces individus qui luttent au quotidien contre cette forme de colonisation capitaliste.
Alors dans le cas précis des peuples du Sud, ce sont moins des individus qui se lèvent que des communautés ou des peuples. En Occident, on a des individus. Dans les sociétés traditionnelles, ce ne sont pas des individus, ce sont des communautés vivantes. Voilà. Rajagopal, avec Ekta Parishad, n'est que le porte-parole de 5 millions de paysans sans terre et de familles qui sont à sa tête. Et on a, dans un certain nombre d'expériences du Sud, la volonté de ne pas trop donner une incarnation individuelle, individualiste, à des logiques sociales. Et l'exemple fameux de ça, c'est les Indiens du Chiapas au Mexique, avec donc l'armée de libération zapatiste, avec précisément pendant plusieurs années, voilà, un passe-montagne qui était mis sur le sous-commandant Marcos. Et l'idée, c'était, bien sûr, on avait un porte-parole qui avait un brio, une belle écriture, mais on ne devait pas voir son visage parce qu'il y avait une sorte d'impersonnalité active dans la lutte des Indiens du Chiapas, exactement comme au Moyen-Âge, il y avait une impersonnalité active chez les bâtisseurs de cathédrales. On ne signait pas l'œuvre, voilà, on n'y avait pas d'appropriation individuelle. Voilà, c'était une communauté vivante, celle des charpentiers, celle des tailleurs de pierre, celle des bâtisseurs qui a érigé ces cathédrales. Ben, dans les luttes écologiques du Sud, on a cette communauté vivante, cette impersonnalité-là. Donc ça, c'est le premier élément. C'est d'abord des communautés et pas des individus. Et en fait, au-delà de cette dimension-là, ce qui va fonder ou légitimer un principe d'espérance, c'est pas tellement que ces luttes existent ou pas, c'est tout simplement un détour par la pensée écologique, et notamment par l'écologie comme science. Donc c'est ce que disent les écologues. Donc c'est vraiment l'écologie comme science qui nous apprend, donc depuis la fin du XIXe siècle, depuis l'idée des écosystèmes, et puis plus tard avec la pensée systémique, c'est quoi ce principe d'espérance qui nous est donné par l'écologie scientifique ? C'est l'idée que plus un système est complexe, plus un système est complexe, qu'il soit politique, économique, social, culturel, biologique, financier, plus un système est complexe et plus il est sensible aux plus petites variations. C'est la métaphore de l'effet papillon qui remonte aux années 1970. C'est-à-dire que le geste le plus petit peut avoir des incidences majeures. À une condition, c'est que ce geste possède les meilleures qualités éthique, morale, politique, sociale, spirituelle, etc. C'est-à-dire que ce qui peut fonder un principe d'espérance, c'est le fait de se dire on n'est pas obligé de multiplier les quantités dans les procédures de résistance. Ce n'est pas en mettant des mille et des mille et des mille personnes dans la rue qui fait qu'il y aura un renversement. Hein, on peut mettre 10 000, 20 000, 100 000 personnes dans une rue sans qu'il y ait de basculement. En revanche, l'un des enjeux, c'est de travailler la qualité des gestes. Même s'ils sont petits quantitativement, si on leur donne la qualité la plus grande, ils peuvent, là aussi, si les dieux le veulent, ils peuvent précisément devenir le battement d'aile d'un papillon. Donc l'enjeu, c'est de donner aux gestes de résistance, aux gestes de rébellion, la qualité la plus grande, c'est-à-dire une profondeur culturelle, symbolique, politique, de leur donner une âme, et que lorsque la résistance n'a pas d'âme, lorsque les gestes de la rébellion n'ont pas d'âme, eh bien, ces actes de résistance, ces gestes de rébellion, eh bien, ceux qui les portent s'épuisent. Ou bien, ces actes et ces gestes sont récupérés par le système marchand, qui va en faire des occasions pour lui de renouveau, redéploiement.
De s'auto-célébrer, etc., etc. Ça, c'est plein d'espoir, ce que vous venez de dire là, parce que ça signifierait, vous allez me confirmer peut-être, que le rapport de force, finalement, ne se situe pas dans le nombre, mais dans la qualité. Ça veut dire que beaucoup, parce que c'est une phrase que l'on entend souvent chez nos concitoyens ici, de dire « mais moi tout seul, que puis-je faire ?» Esselé dans cette espèce d'ensemble qui m'encercle. Ça veut dire que quelque part, il y a quand même de l'espoir, même si on est le plus petit nombre.
Il faut sortir de la mentalité cartésienne. René Descartes, dans « Discours sur la méthode », énonce le principe de base de la science moderne, et derrière la science moderne, de la psyché occidentale, moderne, qui est que le tout se réduit à la somme de ses parties. Il nous dit que pour comprendre un phénomène, il faut le décomposer en plusieurs parties, donner une solution à chacune de ses parties, et on aura compris le phénomène global. Donc le tout est l'addition des parties qui la composent. Eh bien, on a un certain nombre de personnes, y compris lorsqu'ils sont écologistes ou spirituels, qui ont en fait intériorisé la mentalité cartésienne et qui estiment que la société est composée d'individus et que chacun doit faire sa part. C'est la métaphore de la part du colibri que Pierre Rabhi utilise. Chacun doit faire sa part, chacun à son niveau fait ce qu'il peut. Et avec cette approche-là, on est dans une approche additionnelle, atomiste. On est encore dans le cadre cartésien. Alors que l'enjeu, c'est de se dire, oui, je suis seul, et alors ? Et alors, je suis peut-être une individualité, et alors ? Peut-être que la pensée, les concepts, les gestes que je vais poser et proposer, peut-être que ils sont, eux, capables de renverser les situations. Et donc là, on va donner au facteur subjectif, à la partie, la capacité de renverser le tout. Donc ce n'est pas en additionnant les parties qu'on parviendra au tout, parce que le tout, il est plus que la somme de ses parties. Ça, c'est aussi l'un des principes de la pensée écologique. La pensée systémique nous dit que le tout est plus que la somme de ses parties. Donc il ne faut pas miser que sur les parties et leur addition, les individus et les alliances qu'ils nouent entre eux. Il faut d'abord penser à la qualité des gestes, qu'ils soient portés par un individu, par une communauté, par un groupe, la question importe peu. Ce qui compte, c'est vraiment la qualité du geste. Donc, disons que donner une profondeur au geste de résistance, donc donner une qualité au geste de résistance, pour les éco-psychologues, mais pas seulement, mais pour les philosophies de l'âme du monde, c'est essentiellement donner une mémoire. Donc l'idée, c'est que lorsque les gestes de résistance n'ont pas de mémoire, donc lorsqu'ils sont amnésiques, ils tournent en rond ou ils sont récupérés par un système marchand. Donc il ne peut pas y avoir de révolution, il ne peut pas y avoir de transition, il ne peut pas y avoir de transformation du monde sur fond d'amnésie. Donc l'un des enjeux, c'est d'opérer une reprise, ou en tout cas une prise de mémoire. Donner la mémoire la plus grande aux gestes de rébellion. C'est ça, donner une âme. Et pour moi, la notion d'âme et la notion de mémoire sont intimement liées. L'âme du monde, la mémoire de l'univers sont quasiment équivalents. Donc donner une âme, donner une qualité à un geste de résistance, lui, en quelque sorte, lui donner une âme, c'est lui donner une mémoire. Donc c'est faire en sorte que les porteurs d'alternatives, hein, donc voilà, les rebelles, les révolutionnaires, les résistants, les résistantes, c'est que ceux qui portent les alternatives doivent en même temps porter des héritages. S'ils ne sont pas liés à des héritages, à des filiations, les alternatives qu'ils porteront seront insuffisamment structurées et donc ils risquent d'être récupérés par le système marchand. Le système marchand peut récupérer des critiques qui lui sont faites. Il ne peut pas récupérer des critiques qui sont liées à une longue mémoire. Donc ce qui est intéressant, c'est de poser la question de savoir, au moment de la mise en place du capitalisme, hein, qui ont été les pôles de résistance donc au XVIIe siècle. Alors au XVIIe siècle, en Europe, puisque le capitalisme est né en Europe, en Occident en tout cas, mais en Europe en particulier, on a deux grands pôles de résistance en quelque sorte, on a les villes et les campagnes. Dans les villes, ce sont un certain nombre de philosophes, de médecins, de savants, beaucoup d'hommes, dans l'espace urbain, qui défendait la philosophie de l'âme du monde à travers un certain nombre de sciences qualitatives, et la principale d'entre elles, c'était l'alchimie. Donc on avait d'un côté les alchimistes dans les villes, et puis Michael Mayer, par exemple, hein, donc médecin alchimiste, Michael Mayer, Dorn, voilà, et puis dans la lignée de Paracelse, bien sûr, Duval, et donc on a toute une tradition, Jean d'Espagnet. Et puis, à côté de ça, dans les campagnes, on a celles qu'on appelait les physiciennes, hein, donc les physiciennes, donc, parce qu'elles connaissaient la nature, en grec, physis, c'est la nature, les physiciennes, les guérisseuses. Et il se trouve que l'émergence du capitalisme va se faire dans le sang des sorcières, 100 000 femmes qui vont être assassinées, et puis dans la marginalisation des alchimistes dans les villes. Les deux, ce qui est intéressant, et les sorcières des campagnes et les alchimistes des villes portaient le même humanisme cosmique et portaient la même philosophie de l'âme du monde, dit à travers des mots et des métiers différents, parce qu'on n'était pas dans les mêmes contextes, mais ils avaient exactement le même paradigme, comme on dirait aujourd'hui. Et Paracelse, d'ailleurs, lui-même, médecin des villes, reconnaissait qu'il devait tout aux sorcières. Donc, voilà, donc même les alchimistes étaient conscients des affinités électives qui les liaient aux gens à ces femmes des villes, des campagnes. Pardon. 100 000 femmes assassinées dans les campagnes, les alchimistes qui vont être marginalisés, donc on a la mise en place des conditions du désenchantement du monde, parce que précisément, et ces hommes et ces femmes étaient les porteurs de l'âme du monde. Ils étaient les porteurs d'un cosmos animé. Alors dans l'histoire ou dans la préhistoire de ces femmes qu'on a appelées les sorcières, on a donc toute une série de lignées. On a des lignées intimement rurales depuis des siècles. C'est les vieilles lignées de guérisseuses et de matrones qui ont toujours existé dans les campagnes. Donc dans les campagnes, il y a toujours eu des femmes qui étaient aux interfaces entre la communauté sociale et l'âme du monde. Voilà, et qu'à cette interface, elles avaient la maîtrise d'un certain nombre de savoir-faire botaniques, médicinaux. Voilà. Et puis, on avait également d'autres courants de femmes, non pas au XVe et au XVIe siècle, mais trois siècles auparavant, donc au XIIe et au XIIIe siècle, des femmes qu'on a appelées les Béguines, et qui est un puissant mouvement social féminin, donc qui est né en Flandre, donc la Belgique actuelle, Flandre, le nord de la France, l'Allemagne occidentale, un petit peu la Suisse, et puis voilà, donc plutôt les régions du nord, hein, si on veut. Et les Béguines posaient la question suivante: comment vivre une vie spirituelle en dehors des cloîtres, donc en dehors de la tutelle religieuse, et une vie spirituelle en dehors de la maison, c'est-à-dire en dehors de la tutelle domestique. Donc un mouvement de rupture avec la logique patriarcale et avec la logique ecclésiale. Et la réponse de ces femmes, qu'on a appelées les béguines, c'est de créer des communautés alternatives dans les villes, les béguinages. Et dans les béguinages, ces femmes-là assumaient toutes les fonctions, de l'homo universalis. C'est-à-dire qu'elles assumaient à la fois des fonctions, entre guillemets, féminines, domestiques. Voilà, donc, un certain nombre de métiers, l'accouchement, sage-femme, l'éducation des enfants. Mais elles assumaient également des fonctions monopolisées par l'Église, et notamment des fonctions de théologie. Et on sait que les béguines ont élaboré des théologies alternatives dans les béguinages, donc des théologies alternatives, et l'Église réagit. Donc ça a été un mouvement assez puissant, donc plusieurs centaines de milliers de personnes, pour une démographie de l'Europe à l'époque qui n'était pas du tout celle d'aujourd'hui, on parle même d'un million de personnes au pic du mouvement, donc au XIIIe siècle, donc c'est un mouvement social de haute intensité, et avec une culture littéraire énorme, on sait que les premières œuvres dans les langues vernaculaires ont été rédigées par les béguines, donc des œuvres poétiques, spirituelles et littéraires. Donc le latin était la langue des hommes et de l'Église, et elles ont commencé à écrire en flamand, en vieillot-allemand, dans les langues d'oeil, donc les langues vernaculaires du XIIe et du XIIIe siècle. La culture de ces femmes était aussi une culture chevaleresque. Donc elles se réclamaient de l'éthique chevaleresque. Elles étaient profondément influencées par la poésie courtoise des troubadours et des trouvères, donc les poètes de Languedoc et les poètes de Languedoc, pour l'espace, on va dire, francophone, plus tard francophone. Donc elles s'inscrivent dans une tradition qui est celle de la poésie courtoise, une théologie alternative, une culture chevaleresque. L'Église réagit à ce mouvement en leur disant... vous avez trois choix.
Ça fait peur.
Soit vous rentrez dans les ordres, et vous avez une multitude de choix, bénédictine, clarisse, cistercienne, etc. Soit vous vous mariez en bonne et due forme, ou soit c'est la mort. Et donc on a un certain nombre de béguines qui vont être tuées, notamment Marguerite Porret, qui est l'une des principales béguines de l'époque, donc qui a été assassinée à Paris en 1310. Et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le miroir des âmes simples et anéanties ». Alors maintenant, on est dans le champ des hypothèses. Beaucoup de béguines sont rentrées dans les ordres, donc elles sont rentrées dans l'espace ecclésial, parce que dans les ordres, il y avait encore cette dimension communautaire qui les protégeait de la vie prémoderne et moderne. Mais on pense qu'un certain nombre des béguines ont quitté les villes, pour aller les campagnes, parce que le mouvement béguinal, le mouvement des béguines, était un mouvement essentiellement urbain. Donc elles ont quitté les villes pour aller dans les campagnes, et allant dans les campagnes, à partir du XIVe et XVe siècle, elles ont fusionné avec les lignées de matrones et de physiciennes. Le problème, c'est que l'Inquisition va rattraper tout le monde, et qu'à partir de 1550 jusqu'en 1650, donc pendant quelques dizaines d'années, on va avoir une hécatombe en Europe, donc jusqu'à 100 000 femmes qui vont être tuées, 100 000 personnes qui vont être tuées, 80% sont des femmes, essentiellement brûlées, et puis une part qui vont être noyées. Et lorsque on lit les procès-verbaux des tribunaux, on a un double argumentaire qui s'est mobilisé, et l'argumentaire le plus commun, le plus évident, c'est l'argumentaire ecclésial. Donc pour l'Église, la sorcière, c'est la putain du diable. Pour l'Église, la sorcière, c'est c'est celle qui copule avec les démons dans la forêt au moment des sabbats. Alors que pour elle, c'est absolument pas les démons. C'est ce que dans le folklore populaire, dans l'anthropologie culturelle, on va appeler les esprits de la nature. Voilà. Et la confusion entre d'une part les esprits de la nature et d'autre part les démons a entraîné cette folie ecclésiale contre ces femmes. Donc elles sont accusées par l'Église d'hérésie, parce que leur vécu religieux et spirituel, il n'est pas dans la ligne droite de l'Église romaine. Et puis, parallèlement à ce type d'argument, nous en avons un autre, qui est celui des médecins rationalistes, donc des villes, qui participent également au procès, mais à charge contre les femmes. Et là, l'argument est complètement différent. L'argument, c'est que ces femmes, elle colporte des superstitions dans les campagnes. Donc c'est un argument différent de celui de l'Église. Elle colporte des faux savoirs, parce que les vrais savoirs sont les savoirs formels, urbains, académiques, masculins, qui doivent émerger de la main des cartésiens, des galiléens, des médecins rationalistes. Et donc on a la mise en place du désenchantement du rapport au monde, et avec l'un de ces ingrédients les plus importants, qui est la répression de l'imaginaire, parce que ces femmes-là colportaient leur savoir, elles les transmettaient, non pas sur le mode du logos et de la rationalité, mais sur le mode de l'imaginaire et du conte. C'est à travers les œuvres de l'imaginaire que les valeurs et les savoir-faire et les savoir-être se transmettaient, donc de génération en génération, de femme en fille et de grand-mère en petite fille, et que la répression des femmes, la répression de l'imaginaire, met en place les conditions futures de la crise écologique. Ces femmes-là, dans les campagnes, elles étaient les gardiennes de la biodiversité.
Ouais. Et effectivement, par ces formes d'allégorie, des sens pouvaient être spécialement là. Si une filiation de mouvement de ces béguines a survécu à l'Inquisition, laquelle serait-elle qui a traversé les âges, je pense à la Révolution française, jusqu'à nos jours, selon vous? Où est-ce qu'on retrouve ces niches de résistance, cet imaginaire qui est encore foisonnant?
Si on prend le cas des femmes, on a eu une école irlandaise de ce que moi j'appelle les aventurières de l'âme du monde. Donc on a eu des aventurières de l'âme du monde en Irlande, en Angleterre, donc à la fin du 19e siècle, où on a eu des dizaines et des dizaines de femmes, donc dans le monde anglo-saxon, donc Irlande, Angleterre, Irlande, et puis également États-Unis, des dizaines de femmes qui ont décidé de vivre une vie spirituelle, mais comme le champ ecclésial empêchait l'éclosion de cette vie spirituelle, parce que voilà, les églises catholiques et protestantes étaient cadenassées par les hommes, eh bien, elles ont investi ce qu'on va appeler les sociétés initiatiques. Et il se trouve qu'on a énormément de femmes qui ont investi un certain nombre de sociétés. Donc, de façon plus technique, on dira qu'elles ont investi le champ d'ésotérisme.
Enfin, d'accord.
Donc, c'est à travers l'ésotérisme qui va être un lieu d'émancipation des femmes. Et donc, on a énormément de traces, de travaux de ces femmes qui, la plupart du temps, étaient en même temps pionnières dans leur discipline. Donc, elles ont été les premières médecins, les premières éducatrices, les premières astronomes, les premières dans une multitude de domaines, des femmes qui articulaient vie spirituelle, spiritualité, ésotérisme, et puis en même temps, engagement social, révolution, marxisme, écologie. Elles étaient sur tous les fronts. Elles ne séparaient pas la quête de justice sociale, la quête d'écologie, et puis la quête de vie intérieure, d'art et de spiritualité. Et ces femmes-là, on en a énormément. Anna Kingsford, Annie Besant, Maud Gonne, Isabelle Grégory, Margaret Fuller et une multitude d'autres. Donc ces femmes-là sont dans la continuité de, entre guillemets, ces sorcières ou des béguines du Moyen-Âge. On a, en fait, si avant même les béguines, on remonte à Hildegard de Bingen, qui lance un petit peu le mouvement, on a 1000 ans, donc d'Hildegard de Bingen jusqu'à maintenant, on a 1000 ans d'une histoire féminine de rébellion, de spiritualité et d'écologie.
Absente d'Emmanuel.
Oui, absente. Oui, mais ce qui pose problème, ce n'est pas ce que dit le discours officiel.
Certes,
ce qui est gênant, c'est lorsque les milieux alternatifs eux-mêmes occultent cette dimension-là, et notamment les milieux spirituels, les mouvements ésotériques, les mouvements écologistes, qui ont intériorisé une vision patriarcale de l'histoire sociale et de l'histoire des idées.
Mais il y a encore des béguines en Belgique, un groupe, j'ai vu sur Internet, il y a encore une communauté.
Oui, mais la plupart du temps, elles n'ont pas de... C'est
oui,
pas dans le même type.
Le feu sacré, quoi, je dirais.
C'est plutôt des femmes qui atteignent un certain âge et qui, pour éviter la maison de retraite ou bien le repli sur soi, vont créer des béguinages. Donc, c'est plutôt des communautés vivantes qu'on en a aussi en Allemagne. Il vaut mieux ça que le repli sur soi ou le miroir. Ouais. Mais on veut s'inscrire dans une lignée sans tous les éléments de la lignée. Parce que notamment, le travail des béguines au Moyen-Âge a été un travail de créativité théologique, sociale, qu'on n'a plus aujourd'hui dans ceux qui se réclament formellement des béguinages. Mais on l'a dans d'autres milieux sociaux, féminins et féministes. Oui, aux autorités, mais là, on n'est plus du tout dans la même configuration. Mmh. Se réclamer d'un héritage, ce n'est pas revenir aux formes du passé. C'est pour ça que la mémoire et le passé sont des notions différentes. Lorsqu'on va vers le passé, on est un réactionnaire. Lorsqu'on se revendique d'une mémoire, on veut mettre de l'imagination et de la créativité. En général, les réactionnaires n'ont pas d'imagination. Ils pensent que le passé en lui-même était supérieur au présent et au futur. L'enjeu, ce n'est pas de juger la supériorité du présent, du futur ou du passé. L'enjeu, c'est de faire de la mémoire une source d'inspiration pour de la créativité. La démarche est un petit peu différente.
Et alors du coup, une question qui est peut-être à côté, mais selon vous, là, s'il y avait une figure politique de ces personnes-là, est-ce qu'on pourrait les retrouver tout au long de l'histoire dans les mouvements de rébellion, typiquement les Mujeres Libres pendant la guerre d'Espagne, au moment de la résistance, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis plus tard dans les mouvements justement féministes divers et variés? Parce que là, on les retrouve, selon vous, dans cette création tout le temps nouvelle, cette forme de résistance.
C'est pas mécanique. Il faut des critères. Oui. Lorsqu'on fait le lien avec les sorcières et les béguines, donc on est dans un contexte philosophique précis, qui est celui de la philosophie de l'âme du monde et de l'humanisme cosmique. Lorsque des femmes s'engagent socialement sans référence à l'âme du monde ou à l'humanisme cosmique, on ne peut pas faire de ces femmes des aventurières de l'âme du monde. On peut en faire des révolutionnaires, on peut en faire des féministes, des suffragettes, donc des femmes socialement engagées, mais l'engagement social n'est pas suffisant. Pour moi, il y a trois critères qui font qu'une femme peut être définie comme une aventurière de l'âme du monde. La justice sociale, donc l'humanisme, la quête du bien commun, un socialisme de transformation du monde, donc la quête de justice sociale, la justice écologique. Voilà. Donc la plupart de ces femmes ont un rapport au monde qui est de nature poétique et réenchantée, et puis la justesse intérieure qui renvoie à la vie intérieure, donc la poésie, l'art, les beaux-arts, les belles lettres, le sacré. Lorsqu'on a à la fois la justesse intérieure, la justice sociale et la justice écologique, on a trois bons critères qui permettent de dire que cette femme-là, ce mouvement-là, font partie des aventuriers de l'âme du monde. Les femmes que j'ai citées tout à l'heure, Marguerite Fuller, Annie Besant, Anna Kingsford, Florence Faure, Maud Gonne, Moïna Bergson, Simone Veil, la philosophe française, sont des aventuriers de l'âme du monde. Anna Arendt ne fait pas partie, non, pour moi, des aventurières. Il n'y a pas d'humanisme cosmique, il n'y a pas d'âme du monde. On peut faire de la philosophie sur un mode rationaliste, c'est le cas d'Anna Arendt. Elle peut dire des choses bien intéressantes, mais voilà, elle et l'ésotérisme, ce n'est pas son monde. La philosophe Simone Veil, elle est en plein dedans. Voilà, se réclamant de Pythagore et du néoplatonisme. Donc c'est vraiment quelque chose de bien précis. Et voilà, donc toute femme n'est pas une aventurière de l'âme du monde. Et voilà.
Très bien. Alors vous dispensez de nombreuses formations, par ailleurs, ce soir, ici même, à la librairie de l'Olivier. Donc on le rappelle, c'est rue de Fribourg 5, à Genève, à proximité de la gare Cornavant. Quels sont les publics que vous escomptez et quels sont les publics que vous retrouvez? Pour en revenir à des choses, à quelques questions un petit peu plus triviales.
J'ai jamais fait de cartographie sociale des personnes. Il y a de tout. Il y a de tout. D'accord. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a toutes les générations. Il y a de toute origine, a priori. Non, je ne me suis jamais intéressé. Il y a une offre, entre guillemets, une proposition intellectuelle qui est faite. Voilà. Et puis ceux qui sont sensibles à tel ou tel mot, ceux qui sont sensibles à l'effort de l'érudition, parce que ce ne sont pas simplement des conférences, c'est vraiment des cours, voilà, qui durent 3 heures ou 6 heures lorsqu'il s'agit d'une journée entière. C'est vraiment des lieux de ce que moi j'appelle les lieux d'une bataille qui est celle de la culture générale. Dans une conférence, on survole. Si on parle avec les quatre éléments, dans une conférence, c'est l'élément air qui domine. Aérien, on survole, on offre un panorama. Dans les séminaires que moi je propose, donc comme les soirées de l'imaginaire et l'éco-psychologie, ou bien les matinales de la civilisation arabo-musulmane qui ont lieu le samedi matin, une fois par mois, et les soirées donc de l'éco-psychologie qui ont lieu une fois par mois le vendredi soir, ce sont des séminaires, et là l'élément qui domine, ce n'est pas l'air, c'est la terre. C'est-à-dire qu'on a le temps d'enraciner, on a le temps de mettre des nuances, on a le temps de creuser justement telle ou telle problématique. Et je parle de culture générale parce que moi il me semble que c'est la principale des batailles pour les 20 prochaines années, la culture générale. C'est quel que soit l'objet d'étude, que ce soit l'ésotérisme, l'engagement politique, la spiritualité, le développement personnel, l'art, quel que soit l'objet, si les personnes ne sont pas formées, mais seulement informées, si les gens ne sont pas formés, eh bien, l'exploration de ces thèmes sera superficielle. Quand bien même il y aurait une belle bonne volonté, il y a une insuffisance. La bonne volonté n'est pas suffisante. Il faut aussi être capable de relier les choses entre elles. Et c'est la culture générale qui permet de relier les choses entre elles. C'est la culture générale qui permet de faire le lien entre le massacre des sorcières, dont on a tous plus ou moins entendu parler, la crise écologique, dont on a tous entendu parler, mais établir le lien entre les deux ne va pas de soi. La culture générale, c'est d'établir le lien entre le massacre des sorcières il y a 500 ans et la crise écologique contemporaine. Et c'est voilà, la proposition que je fais à travers toute une série de thèmes en éco-psychologie ou bien sur le monde arabo-musulman, c'est de proposer des tissages, des correspondances, ben voilà, pour que les gens puissent éclairer l'actualité, leur vie personnelle, des fragments d'histoire. L'idée, c'est de proposer des éclairages.
Je crois que l'école officielle genevoise vous a demandé des cours, de préparer des cours et d'enseigner.
Oui, j'interviens dans plusieurs cadres officiels et para-officiels, dans la formation continue des profs, oui.
Oui, moi, je vous posais cette question parce que je me demandais si on sentait, justement, de nouveau replacé dans le contexte actuel, qui est celui de la tyrannie de la vitesse, toutes ces choses-là, si vous sentiez les gens venir parce qu'ils sont vraiment demandeurs, justement, pas d'un survol des choses, mais vraiment à l'encontre de ce qui nous entoure, d'aller en profondeur et de prendre le temps et l'effort et de faire cet effort-là.
Si les gens viennent à mes cours, c'est qu'ils sont en quête, je dirais pas de sens, mais en quête de connaissances. Donc voilà, donc c'est voilà, le seul fait de s'inscrire à un cours, voilà, c'est on vient pas par hasard. Voilà, donc on vient pas par hasard payer une formation, voilà, une conférence générale de temps en temps, on peut y aller sur un mode de la consommation. Les séminaires que je propose, on vient moins pour consommer que pour se former. Voilà, se former, et je fais vraiment la distinction entre la formation et l'information. On peut donner aux gens des informations justes est vrai sur le monde, mais si les gens n'ont pas de clé d'analyse, s'ils n'ont pas de grille d'interprétation, on leur donne des informations vraies, qu'est-ce que ça signifie, quel est le sens de cette information, dans quel contexte je peux la mettre, je ne sais pas. Donc donner des informations vraies n'est pas suffisant, il faut aussi donner des clés de décryptage, des clés de décodage, c'est la culture générale.
Voilà. Et ça, c'est ce que vous opérez pendant ces formations ici à la librairie de l'Olivier.
Les formations ont commencé au mois de mars. Oui. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui au mois d'avril. Et elles vont se prolonger jusqu'au mois de décembre. Donc voilà, c'est deux formations. Une vraiment centrée sur l'éco-psychologie. Donc on a fait une première séance sur voilà, une définition générale de l'éco-psychologie. Ce vendredi, donc 21 avril, il est plutôt consacré donc aux matrices de l'éco-psychologie, donc à la Renaissance. Donc, qu'est-ce qui s'est joué à la Renaissance et puis qu'est-ce qui s'est joué à l'époque du romantisme, donc autour de Goethe et de tout un mouvement. Et on va explorer comme ça toute une série de thèmes. Je reviendrai sur les aventurières de l'âme du monde et l'éco-psychologie. Je reviendrai sur le rapport entre science et spiritualité. Donc on va aborder toute une série de thèmes. Et les thèmes sont disponibles sur le site de la librairie L'Olivier. Il suffit d'aller voir dans l'agenda ou bien simplement d'envoyer un mail à la librairie de l'Olivier pour demander à recevoir le programme complet des thèmes.
Au salon du livre, c'est ce que vous allez discuter.
Alors, au salon du livre, alors c'est pas totalement les mêmes thèmes. Au salon du livre, donc, voilà, qui va commencer mercredi, donc j'interviendrai le soir, enfin en fin d'après-midi, dans le cadre du Café Sagesse. Donc avec des représentants de plusieurs traditions religieuses. Donc moi, j'interviendrai comme musulman, parce que l'islam est ma culture spirituelle. Donc le thème, c'est la question de la liberté et de la transcendance et de la mystique. Voilà. Est-ce que toute mystique est d'emblée dangereuse dans la mesure où elle veut vivre l'absolu, alors que nous vivons le monde de la relativité? Donc ouais, je donnerai un éclairage avec les bouddhistes et les protestants qui seront là. Et puis, le vendredi matin, donc de 11h à midi, j'interviendrai dans le cadre d'une table ronde proprement consacrée à l'islam, autour du sacré, le sens du sacré en islam. Faut-il désacraliser le sacré? Comment lire le Coran de façon novatrice? Voilà, donc là aussi, j'aborderai un petit peu la question à partir de mes propres ressources intellectuelles.
Vous collaborez de temps en temps avec... parce que vous êtes en Genève et Lausanne de temps en temps.
Oui.
Tout de même, puisque vous enseignez, vous avez enseigné à Lausanne également.
J'enseigne à Lausanne, toujours à Lausanne. Donc
la plateforme interreligieuse ou la formation de l'entre-connaissance ici au paquet.
Non,
pas spécialement. Parce qu'effectivement, récemment, une pièce de théâtre qui a été mise en scène par sortie d'un livre qui s'appelle Le Roi, le Sage et le Bouffon.
C'est bien, oui.
Qui est intéressant dans le cadre justement des discussions interreligieuses en tout cas. Ok, c'est juste pour savoir. Peut-on encore citer votre blog, puisqu'on y trouve un paquet de ressources également?
Alors, j'ai effectivement deux blogs. Un blog qui s'appelle La Montagne CAF. Donc, CAF, c'est Q-A-F. Donc, il suffit simplement de taper mon nom, Mohamed Taleb plus La Montagne CAF, Q-A-F. CAF, c'est une montagne mystique dans la tradition musulmane. Donc, une montagne magique, en quelque sorte. Donc, l'équivalent du Mont Meru dans la tradition indienne. C'est une sorte de centre du monde. Et qui est un blog entièrement consacré aux questions d'islam et d'écologie. Donc c'est un blog qui propose une théologie musulmane du cosmos animé, de la nature vivante. Donc c'est une lecture musulmane de l'écologie. Et puis j'ai également un autre blog qui s'appelle L'éco-psychologie, l'insurrection culturelle de l'âme du monde. Et donc qui, comme son nom l'indique, est consacré à l'éco-psychologie, donc avec un nombre de textes, d'articles, de moi et d'autres auteurs autour de ces interfaces.
Et on vous retrouve également au travers de vos ouvrages que l'on trouve ici, notamment à la
librairie. À la librairie de l'Olivier, mes livres sont disponibles.
Super. Je vous remercie beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup.
Podcast, radio mobile, studio permanent, MR1, la radio qui prend racine et qui donne des fruits. www.mr1.ch